Bienvenue à tous. On est toujours avec le balado, le no-brainer. Donc, on a une nouvelle invitée aujourd'hui. On est super excités de la recevoir. Gracieuseté de l'Alberta. Donc, on reçoit aujourd'hui Nathalie Trottier, en fait, qui a étudié la physiothérapie à l'Université de Montréal, l'ostéopathie au Collège d'études ostéopathiques de Montréal. Elle a aussi obtenu une maîtrise à l'Université de Calgary. Et elle est présentement étudiante au doctorat à l'Université de Sherbrooke. Donc, petit pédigré comme ça, là, Nathalie, elle est chef de file dans l'étude de la façon dont les médecines alternatives et conventionnelles peuvent être complémentaires et aussi à l'avant-garde de l'amélioration de la compréhension et de l'accès à l'ostéopathie. C'est une passionnée de son travail, elle est dévouée à l'avenir de sa science. Donc, bienvenue parmi nous aujourd'hui, Nathalie.
Merci beaucoup.
Donc, on aimerait que tu commences tout d'abord là, à parler de ton cheminement. Là. Déjà, j'ai présenté ton pédigré au départ, là, mais je pense que le cheminement qui t'a apporté aujourd'hui là, à être premièrement en Alberta et aussi à faire de la recherche au doctorat à l'Université de Sherbrooke, là, j'imagine qu'il y a une petite histoire derrière ça.
Oui, bien certainement. C'est clair que ma curiosité scientifique a commencé avec mes études en physiothérapie là, dans les années. J'ai terminé au début des années 90. Mais tout de suite après, j'ai commencé mes cours en ostéopathie parce qu'il y avait beaucoup de mes superviseurs de stage qui étaient déjà dans leurs cours d'ostéopathie. Donc, ça m'a vraiment beaucoup ouvert sur la curiosité, la globalité, la façon qu'on apporte un service à nos patients. Donc, j'ai fait mon cours et à la fin du cours, on avait un projet de fin d'études à compléter au Collège d'études ostéopathiques de Montréal à ce moment-là. Et puis moi, je me suis intéressée à l'enseignement du Dr. William Gardner Sutherland. Puis, ce que je voulais savoir un petit peu, c'est qu'est-ce qui était enseigné dans ces années-là et par rapport à ce qui avait été enseigné au début, lui, comment lui enseignait. Donc, ça m'a amené vraiment à utiliser des méthodes de recherche un petit peu qualitatives, malgré que je n'ai pas eu beaucoup de spécialistes autour de moi là, sur la question pour pouvoir m'aider à comprendre comment faire, comment procéder là, à vraiment la cueillette de données. Mais quand même, ça m'a donné une façon là, de commencer cette recherche-là. Puis tout ça, ça m'a amené à aller rencontrer des ostéopathes un petit peu partout, là, que ce soit aux États-Unis, en Europe, c'est-à-dire en France, en Angleterre, en Belgique et bien sûr au Canada. Mais aussi, ça m'a amené à aller interviewer des ostéopathes de carrière là, qui avaient beaucoup, beaucoup d'expérience. Donc, j'ai vraiment eu la chance de rencontrer, entre autres, Dr. Anne Wells, Dr. Viola Fryman, Dr. Thomas Cooley, aussi Dr. Jealous, Philippe Druel, évidemment, Alan Becker, Françoise Desrosiers. Je veux dire, ça, c'est pour n'en nommer que quelques-uns, mais c'est vraiment été des points tournants dans ma vie professionnelle pour ouvrir vraiment à différentes façons vraiment d'approcher là, l'ostéopathie et le service qu'on donne à nos patients. Donc, j'ai toujours aimé la recherche. Et à un moment donné, bon, la vie a fait que, oui, j'ai eu des enfants, j'ai dû mettre ça un petit peu sur la glace. Mais j'aurais toujours voulu continuer en recherche. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 2007, nous sommes déménagés à Calgary pour le travail de mon mari, mon partner. Puis à ce moment-là, veux pas, je n'avais plus toute ma charge de clientèle que j'avais au Québec. Donc, je me suis dit, c'est peut-être le moment pour commencer la recherche. Donc, une collègue qui est maintenant ostéopathe, là, qui travaillait à l'Université de Calgary, elle m'a parlé qu'il y avait des docteurs, des PhD, là, des professeurs à l'Université de Calgary qui pourraient peut-être être intéressés avec le sujet de recherche que j'avais. Donc, je les ai rencontrés à l'Université de Calgary et ils ont bien voulu me prendre comme étudiante là, en maîtrise à ce moment-là. Puis, mon projet, en fait, c'était en relation avec la plagiocéphalie, la prévention, ou plutôt même le traitement de la plagiocéphalie chez les bébés de 3 à 4 mois. À ce moment-là. Et il faut dire aussi que j'étais, comme je suis physiothérapeute, mais j'ai travaillé à temps partiel, moi, au Children's Hospital à Calgary, en tant que physiothérapeute au Head Shape Clinic. Donc, cette clinique-là, à ce moment-là, recevait des enfants là, de, je dirais, de 2-3 mois jusqu'à l'âge d'un an qui présentaient des problèmes de plagiocéphalie ou de brachycéphalie. Ça, c'est toutes des déformations crâniennes positionnelles. Donc, j'avais vraiment le pied dans, à l'hôpital où est-ce que la recherche pouvait se faire. Donc, ça a été vraiment une grande courbe d'apprentissage, là, ces 2-3 ans-là. Puis j'ai vraiment apprécié le fait d'être entourée de spécialistes, que ce soit des spécialistes en méthodologie de recherche, que ce soit des spécialistes en recherche de littérature comme les bibliothécaires, que ce soit des biostatisticiens, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de spécialistes de la recherche, évidemment, dans les universités. Donc, ça, ça aide beaucoup hein, à compléter un projet de recherche. Ensuite, ce qui est arrivé, ben, ça s'est complété. J'ai mis ça encore sur la glace parce qu'à ce moment-là, mes filles étaient adolescentes et avaient besoin de leur maman. Et puis, j'étais quand même à 1 heure là, de l'Université de Calgary. Mais maintenant, grâce en fait à la pandémie, et oui, il y a des effets positifs, heureusement, ben, ça a ouvert la porte à aller aux études en virtuel. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit, oh, peut-être que c'est ma chance de continuer la recherche. Et à ce moment-là, j'ai approché Chantal Camden, qui est professeure à l'Université de Sherbrooke et qui est vraiment, qui travaille en téléréhabilitation, mais aussi auprès des enfants pour tout ce qui est la réhabilitation, le développement moteur, etc. Et puis, c'est à ce moment-là, en 2020, oui, à l'automne 2020 que j'ai commencé mon doctorat. Mais j'ai toujours eu cette curiosité, puis c'est pour ça que je suis allée vers les études doctorales. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée.
Puis comment on fait l'amalgame? Parce que tu nous as parlé un petit peu que quand tu as déménagé à Calgary, ben en fait, tu as travaillé comme physiothérapeute, mais en fait, c'est comme ta carrière initiale, puis tu baignais très bien dans l'ostéopathie. Bien, comment qu'on fait l'amalgame de dire « je suis rendue ostéopathe, mais pendant une période de ma vie, je dois quand même travailler comme un physio, qui est, oui, l'emploi que tu as débuté en réadaptation. » Mais comment tu t'es sentie justement de dire « ben moi, j'ai fait carrière en ostéo, mais là, pendant une certaine période de temps, je fais de la physio. » Comment qu'on se sent dans ce contexte-là?
Oui, c'est une bonne question. En fait, moi, j'ai pas précisé ça, mais j'ai toujours travaillé en clinique privée aussi, depuis que j'ai gradué. Donc, ça fait plus de 30 ans que je travaille en clinique privée, en ostéopathie. Donc, c'est clair. Là, c'est vraiment ma plus grande expertise, si on veut. Pour ce qui est de la physiothérapie, c'est vraiment plus centré sur l'aide aux enfants. Donc, à ce moment-là, il y a vraiment, puis je ne dis pas que ça n'existe pas pour les autres clientèles en physiothérapie, mais moi, mon domaine d'expertise en physiothérapie, c'est pour les déformations crâniennes positionnelles chez l'enfant. Donc, comment j'ai fait l'amalgame? En fait, c'est facile parce qu'au Children's Hospital, je ne traitais pas du tout. Ce que je faisais, j'évaluais les enfants. Et là, on dirigeait vers les services si c'était nécessaire, où on donnait les conseils aux parents pour qu'ils puissent vraiment supporter leur enfant et vraiment appliquer ou implanter ces stratégies-là pour aider à ce que les déformations crâniennes diminuent ou s'améliorent.
Donc, l'aspect éducationnel là, était vraiment au cœur, en fait, là, de la prise en charge, en fait, quand tu fais ce travail-là, au tout début, avant le doctorat, en fait.
Ce qui est important, c'est que j'ai toujours aimé la collaboration avec les autres professionnels et les parents. Et puis, en physiothérapie, ça, où est-ce que j'ai travaillé, ça, c'était très important. Donc, ça aussi, c'était quelque chose d'important. Mais je ne peux pas dire que je ne l'ai pas fait en ostéopathie non plus, parce que certaines cliniques où j'ai travaillé, que ce soit au Québec ou en Alberta, j'ai souvent eu des collègues, oui, ostéopathes, mais aussi physiothérapeutes aussi, mais je veux dire des médecins, des psychologues, des ergots, des acupuncteurs. Il y avait de tout. Il y avait des médecins, oui, traditionnels, mais aussi complémentaires.
Et dis-nous, Nathalie, là, comme tout à l'heure, tu nous as dit que ben, tu avais effectué ta maîtrise à l'Université de Calgary. En quoi portaient tes travaux là, à la maîtrise là-bas, là, puisque tu avais une expertise là, au niveau de la plagiocéphalie là, ou des déformations crâniennes positionnelles?
Oui, bien, en fait, c'est que ce que j'ai fait dans ma carrière aussi, c'est que j'ai beaucoup supervisé des travaux de fin d'études d'étudiants au CEO. Puis, une personne qui a fait des grands travaux comme ça, c'est Sylvie Lessard, vous l'avez nommée au départ. Puis, elle, son projet, c'était justement une étude, c'était une étude pilote, en fait, mais il n'y avait pas de groupe contrôle. Elle donnait des traitements d'ostéopathie aux enfants sur qui avaient de la plagiocéphalie. Et puis, moi, ce que j'avais proposé, c'était Dr. Caroline Emery, puis Dr. Preston Wiley à Calgary. Je leur avais dit, mais peut-être qu'on pourrait continuer ce projet-là, puis à ce moment-là, avoir un groupe contrôle. Donc, avoir un groupe contrôle qui ne recevait que l'intervention normale. Ici, ce qui est donné, c'est vraiment des conseils aux parents, des conseils de positionnement et d'étirement du cou pour l'enfant si c'est nécessaire. Donc, il y a vraiment quand même la thérapie un petit peu manuelle pour ces enfants-là. Mais le groupe expérimental, à ce moment-là, recevait en plus des ajustements ostéopathiques, si on peut appeler ça comme ça, ou une approche ostéopathique. Donc, c'était ça la différence. Mais oui, ça s'appuyait. Puis d'ailleurs, Sylvie était sur notre comité là, d'études. Donc, elle a suivi aussi ce projet-là.
OK. Puis à la lumière là, de ces nouveaux, ben, cette continuité-là de travaux, là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les résultats que vous aviez eus à ce moment-là?
Oui, alors nous aussi, c'était quand même une étude pilote. Donc, il y avait seulement 30 enfants qui ont participé, qui étaient des participants aux deux groupes. Donc, il y avait 15 participants dans le groupe contrôle, 15 participants dans le groupe intervention. Puis, ça se déroulait, ça fait un petit bout de temps, il y avait six traitements, si on veut, six sessions. Et trois fois, il y avait des évaluations, donc en pré, en milieu, puis à la fin du processus. Puis on regardait beaucoup de choses. On regardait tout ce qui était évalué. C'était la forme, les diamètres crâniens. Il y avait la mobilité cervicale, passive, active. Il y avait aussi le développement moteur aussi. Donc, c'est ça. On regardait tout ça. Ce qui est arrivé, c'est que tous les enfants ont eu tendance à s'améliorer, mais il n'y a pas eu d'effet. Il n'y a pas eu de un peu plus d'effet dans un groupe ou l'autre.
Par Et donc, contre, les deux groupes étaient identiques à la fin ou similaires?
Similaires dans le sens, les deux groupes se sont améliorés, mais il n'y en a pas un qui s'est amélioré plus que l'autre. Par contre, ce qui a vraiment été intéressant, c'est pour ça que vous allez voir, je vais vous expliquer ce que je fais en doctorat, c'est que les déterminants les enfants qui ont vraiment plus amélioré leurs caractéristiques. Puis encore là, on s'entend qu'il y avait seulement 30 enfants. C'est pas un grand groupe. Donc, ces enfants-là étaient plus jeunes lorsqu'ils ont commencé les sessions. Mais aussi, les parents étaient très proactifs. Donc, moi, dans ma curiosité, et d'ailleurs, j'ai presque continué mon doctorat là, tout de suite après, mais bon, la vie a fait que je ne l'ai pas fait. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas donner ces conseils de prévention-là dès la naissance à tous les parents? De toute façon, des conseils, c'est quoi? Je peux vous l'expliquer si vous voulez, mais c'est comment positionner son enfant de différentes façons que sur le dos. Et comment stimuler son mouvement spontané. Donc, on veut que l'enfant tourne sa tête des deux côtés le plus possible. On veut qu'il puisse accepter la position ventrale le plus possible. Donc, tout ça, ça aide, oui, à la mobilité cervicale, oui, à la formation crânienne, mais aussi à son développement moteur.
Parce que...
Donc, c'est,
selon ta perspective, là, justement, dans ta compréhension puis tes questionnements de ce moment-là, est-ce que c'est parce que tu penses ou que tu suggères que la prévention n'est pas présente? Là, c'est sûr que toi, ta perspective est plutôt selon le système de santé albertain, là, j'imagine, là, que celui québécois, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as observé dans ta vie clinique qui manquait cette prévention-là?
Oui, ça, c'est une grande question. Oui, les stratégies de prévention sont existantes. On les retrouve dans les livres, comme par exemple le mieux vivre avec notre enfant que vous recevez au Québec. C'est présent à la page 300 du livre. Vous pouvez regarder si vous voulez. Puis ici en Alberta, ou même au Québec aussi, il y a des sites web où il y a toutes les explications, des grands textes avec quelques petites images, là, des petits dessins là, qui montrent des trucs. Mais en clinique, je ne sais pas pour vous, mais moi, en clinique, je vois encore des parents arriver avec leur enfant à l'âge de 3-4 mois qui ont des plagiocéphalies. Ça ne veut pas dire que tous les parents qui vont appliquer les stratégies vont avoir du succès avec leur enfant. Mais il y en a qui ne sont même pas au courant que ça existe, la possibilité d'avoir une plagio, mais aussi que c'est important de placer son enfant dans différentes positions. Donc, je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai fait une revue de littérature, justement, là, dans le cadre de la préparation de mon protocole pour mon doctorat. Puis, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet, mais ça m'amène à me demander quelles sont les barrières et les facilitateurs à l'adhésion aux stratégies par les parents? Puis, je veux dire, cette question-là n'a pas été étudiée d'une façon très, très exhaustive là, et spécifique. Entre autres, oui, ce qui est rapporté, c'est quoi? C'est un, il y a des parents qui ne connaissent pas du tout, c'est quoi? Ils ne savent pas quoi faire non plus. Mais il y a aussi des parents qui sont démunis parce que leur enfant pleure beaucoup lorsqu'ils sont sur le ventre. Donc, puis, ils n'ont pas d'autres stratégies différentes pour les positionner autrement. Donc, ils sont un petit peu démunis, ils ne savent pas où poser leurs questions, ils ne savent pas à qui s'adresser. Ou des fois, oui, ils ont le livre, le mieux vivre, mais ils ne se sont pas rendus à la page 300 du livre. Comprenez? Donc,
il y a moi, tellement de choses à apprendre quand tu es un nouveau parent que de se rendre à la page 300 peut être déjà une énorme tâche.
Il n'y a pas d'examen d'admission non plus. Hein?
Non, c'est ça.
C'est une lecture qui peut parfois être juste une lecture simple. Là, donc, on ne va pas dans le profond des choses puis on ne se rend pas à la page 300 des fois.
Et on s'entend qu'il y a des fois d'autres problématiques qui sont beaucoup plus importantes quand on a un petit bébé qui, par exemple, a de la difficulté à boire ou... Bon, il faut quand même comprendre tout ça, mais peut-être qu'il y a des façons d'approcher les parents ou de leur donner l'information de façon très visuelle, très facile. Je ne sais pas. Donc, c'est ça mon sujet de recherche. Essayer de trouver. Donc, mon sujet de recherche en doctorat, c'est un, d'étudier ces barrières et ces facilitateurs. Donc, on va vraiment poser des questions par un questionnaire à plusieurs parents canadiens, mais aussi par des entrevues pour aller vraiment plus en profondeur là, sur ces questions-là. Et aussi, on va demander aux parents quelles sont leurs recommandations. Est-ce qu'ils ont des idées, eux? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, finalement? On va prendre tout ça, on va imager tout ça, mettre ça en graphique ou en tableau. Puis ensuite, on va faire des groupes de professionnels et de parents, et surtout des professionnels, en fait, canadiens, mais dans le sens qui viennent du Québec et de l'Alberta. Puis, on va essayer d'identifier les 5 meilleures stratégies et les prioriser. Puis à ce moment-là, on aura peut-être des solutions à offrir, si on veut, au système pour améliorer cette petite partie. C'est pas un problème grave, une déformation crânienne positionnelle. C'est pas une question de vie ou de mort pour l'enfant, ou vous savez, mais c'est quand même préoccupant parce que quand même, selon la littérature, il y a de 20 à 45 % des enfants qui présentent une déformation crânienne à l'âge d'environ 2-3 mois.
C'est quand même un bon pourcentage.
C'est quand même un bon pourcentage. Par contre, beaucoup de ces enfants-là vont s'améliorer avec le temps, mais il y a quand même un tiers de ces enfants-là qui vont quand même présenter une asymétrie en tant qu'adolescent.
Ben, c'est surtout que si on peut le prévenir, si on peut prendre certains de ces enfants-là, puis avec des conseils, des traitements, des exercices, on peut arriver à prévenir une bonne partie, bien, ce 20 à 45 deviendra peut-être 10 à 15 tu sais. Puis même si c'est pas mortel, même si c'est pas une condition de santé qui est ultra méga grave, reste qu'on peut quand même faire quelque chose. Fait que je pense que ça, c'est intéressant malgré tout.
C'est ce que je pense aussi, oui.
Puis dis-nous, Nathalie, là, bon, tu as mentionné que ce n'était pas un problème grave. Parfois, il y a d'autres problèmes sous-jacents plus prioritaires. Mais selon ta revue de littérature là, que tu as fait, là, cette déformation crânienne, là, qu'est-ce que ça pourrait amener, là, juste pour donner une idée là, des risques que ça persiste oui. dans le temps?
Oui, c'est une excellente question encore. Alors, selon la littérature, donc il y a vraiment ce qui est rapporté le plus souvent, un, c'est l'aspect esthétique, comme j'ai parlé tout à l'heure. Oui, mais dans cet aspect esthétique-là, il y a aussi la symétrie au niveau du mandibule. Parce que ce que je n'ai pas mentionné au départ, c'est que des déformations crâniennes comme la plagiocéphalie, c'est vraiment une déformation crânienne d'un côté du crâne qui va amener ce même côté du visage plus vers l'avant, donc antérieur. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'oreille est plus en avant d'un côté que de l'autre. Ça fait que la joue est plus proéminente d'un côté que de l'autre. Ça fait que l'œil est différent aussi en grandeur d'un côté que de l'autre, mais aussi le mandibule inférieur, donc la mâchoire inférieure, va être en rotation de ce côté-là. Donc, ce qui fait que l'articulé dentaire va être aussi asymétrique. Donc, ça, c'est une problématique. Il y a aussi ce qui est beaucoup, beaucoup présent dans la littérature, ce qu'il y a des grandes équipes de chercheurs qui étudient la question, là, c'est l'association avec les délais dans les problèmes neuromoteurs, le développement de l'enfant. Donc, je parle du développement moteur, je parle du développement cognitif aussi. Donc, il y a des équipes qui s'attardent à voir qu'est-ce qui arrive dans le temps, même rendu à un niveau scolaire. Est-ce que ces enfants-là ont plus de risques d'être un peu en retard par rapport aux autres? Et la réponse est oui. Par contre, ils n'ont pas pu établir que c'est à cause de la plagiocéphalie que l'enfant a un développement moteur ou vice-versa. Ce n'est pas nécessairement à cause d'un retard de développement que l'enfant va développer une plagio. Il y a peut-être un peu des deux. Sauf que qu'est-ce que ça fait dans notre communauté de professionnels? C'est qu'on demande aux médecins, aux professionnels qui gravitent autour de ces enfants-là, de ces familles-là, de surveiller plus étroitement ces enfants-là pour justement intervenir le plus tôt possible puis aider à stimuler justement ce développement-là. D'ailleurs, les stratégies de prévention là, qui sont efficaces, en fait, là, pour prévenir la plagio, sont aussi efficaces pour stimuler le développement moteur. Donc, pourquoi ne pas stimuler ça dès la naissance de l'enfant?
Je trouvais ça intéressant, justement, la mâchoire. Bon, tu sais, on a l'oreille qui va en antérieur, on a aussi l'œil, la mandibule, tout ça. Moi, c'est vraiment pas mon domaine, la pédiatrie, hein, donc je suis vraiment pas au fait des dernières données, mais justement, est-ce qu'on pourrait pas observer une baisse de l'acuité visuelle d'un côté, une difficulté en orthophonie, une difficulté même en audiologie, qui pourrait contribuer justement à ces facteurs de risque, là, de problématiques de développement moteur, de facteurs de risque là, associés à ça?
Oui, bon, en fait, c'est ça, c'est des grandes questions. Dans la littérature, il y a quelques équipes de chercheurs qui se sont attardées à ces questions-là. Selon mes connaissances, et peut-être que j'ai manqué beaucoup de choses, ça c'est possible, mais les études qui se sont attardées à ça n'ont pas la robustesse méthodologique pour vraiment être assurées, absolument être certaines qu'un lien avec les troubles auditifs ou avec les troubles visuels. Mais dernièrement, j'ai vu une étude, là, je ne pourrais pas vous la citer, mais il y a une question qui a été posée par rapport à l'astigmatisme. Il y a peut-être ces enfants-là ont un risque plus grand d'avoir de l'astigmatisme, mais encore là, il faudrait que je relise cette étude et vous en anglais, on dit critical appraisal, une revue critique de cette étude. Mais c'est comme je vous dis, ce sujet-là est très, très étudié en ce moment.
Ça reste quand même donc des hypothèses et des questions cohérente à se poser, hein, à se dire, ben justement, est-ce que ça peut avoir un effet jusque-là? Puis, ça sera éventuellement répondu en, partiellement par de futures études ou des informations qui vont arriver bientôt, surtout si on voit qu'il y a des groupes de chercheurs qui s'y attardent énormément. Oui.
Parce que qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est un segment, c'est un sujet à l'étude qui est en grande progression. En fait, cette problématique-là n'existait pas avant les années 90. Pourquoi? Parce que au début des années 90, il y a eu des recommandations qui ont été faites de placer notre enfant sur le dos pendant son sommeil. Et ça, c'était pour diminuer l'incidence ou de la mort subite du nourrisson. Et effectivement, ça a été super efficace parce que cette incidence de mort subite du nourrisson a presque diminué de 50 %, ce qui est énorme quand on y pense. Par contre, ce qui arrive, c'est que oui, on met notre bébé sur le dos pendant son sommeil, ça c'est clair. Mais pendant qu'il est éveillé, c'est que les parents ne changeaient pas nécessairement sa position à son bébé. Donc, c'est là que les problèmes de déformation crânienne poussinelle se sont vraiment émergé.
On a passé d'un extrême à l'autre.
Oui.
Dis-moi, Nathalie, pendant que tu parlais de ton étude de maîtrise tout à l'heure, tu as mentionné que, en fait, les enfants, tu les avais pris entre 3 et 4 mois. Et que finalement, ben, il n'y avait pas eu de différence. Je ne sais pas si c'était une différence statistiquement significative ou si vous aviez fait le cliniquement, là. Mais tu as surtout mentionné que peut-être il y avait une hypothèse que ces enfants-là n'étaient peut-être pas pris assez tôt. Puis que dans le fond, les enfants étaient peut-être à 3 ou 4 mois déjà un petit peu plus avancés pour qu'il y ait un changement significatif là, avec possiblement comme tu l'as mentionné, les ajustements ostéopathiques. Selon ta perspective, parce que là, avec ton étude au doctorat, on semble comprendre que tu veux partir vraiment du plus tôt possible de la vie de l'enfant pour espérer avoir un effet ou un impact le plus significatif possible. Selon ta perspective, puis c'est peut-être une question un petit peu plus mécanistique, selon ta perspective, pourquoi à 3 ou 4 mois, ça serait déjà peut-être pas trop tard, mais trop avancé pour avoir une différence significative entre deux groupes avec une intervention plutôt standard et un groupe expérimental?
C'est important de préciser que tous les enfants se sont améliorés de façon statistique. Tous les enfants, que ce soit qui ont reçu le standard of care, qu'on dit en anglais, le traitement standard, c'est ce qu'on dit, et en plus des ajustements ostéopathiques, si on veut. Donc, tous les enfants se sont améliorés. Donc, non, je ne pense pas que c'est trop tard pour les prendre en charge. Ça, c'est clair. Je pense que la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là? Là, on n'est pas en prévention à ce moment-là, à 3-4 mois. C'est ça la différence. Tandis que mon projet doctoral, on est vraiment dans la prévention. Parce qu'à la naissance, là, il y a beaucoup moins d'enfants qui présentent des signes de plagiocéphalie. L'incidence, c'est de 6 à 13 % au lieu de 20 à 45 %. Donc, les enfants développent des déformations crâniennes dans les premiers mois de vie. Donc, mais pourquoi ne pas empêcher que ça se développe? C'est ça ma question. Donc, peut-être que les parents pourraient se sauver, justement, d'aller en physio, d'aller en ostéo, de payer pour des orthèses crâniennes si c'est grave. C'est tous les frais, et des frais en argent, mais aussi des frais en temps, parce que les parents sont occupés, là, je veux dire, ils en ont des choses à faire. Donc, c'est pas la même approche du tout, du tout, du tout.
Ça permet de diminuer le fardeau, en fait, financier, social, de la famille, si on y va sur la prévention. Puis en plus, je trouve le projet intéressant parce qu'on met les parents au cœur des décisions de prévention. Tu sais, donc, ça fait vraiment une thérapie ou, en fait, ben, une prévention qui est centrée aussi sur le parent.
Exactement. Puis en fait, aussi, c'est que ça informe le parent. Ça le met justement au cœur des décisions et aware. Tu sais, ils vont être plus attentifs si leur enfant ne veut pas tourner sa tête d'un côté mais il est toujours tourné de l'autre. Le parent va le remarquer peut-être plus, il va en parler avec son professionnel de la santé, que ce soit son médecin, que ce soit l'infirmière si l'enfant est à la vaccination, que ce soit avec son physio, son ostéo. Donc, je pense que oui, ça c'est important à dire, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de l'aspect esthétique, de l'aspect développemental, mais il y a aussi les coûts encourus. Donc, ça, c'est important. Donc, mes deux groupes se sont améliorés. Ce qui est intéressant, ce que j'ai appris aussi en voyant beaucoup, beaucoup d'enfants, en fait, parce que, comme je vous disais, je les évaluais à la clinique HeadShape. Donc, je pense que j'en ai évalué au-dessus de 300, là. Donc, ça en fait de l'enfant, ça. Ça, c'est le fun parce que tu peux acquérir beaucoup d'expérience. Mais que les plagiocéphalies ne sont pas toutes pareilles. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de causes, si on veut. Donc, peut-être qu'il y a des enfants qui répondraient mieux à juste le positionnement, tandis que d'autres vont répondre mieux à tout ce qui est ostéopathique. Mais ça, on ne s'est pas rendu là. Il faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants pour pouvoir vraiment analyser de cette façon-là. Puis pour l'instant, ben, ça ne valait pas la peine de placer les argents, si on veut, parce que ça coûte des sous hein, de faire la recherche, évidemment. Donc, là, je pense que de façon réaliste, c'était plus adéquat d'aller vers la prévention que vers, bon, qu'est-ce qu'on peut faire comme traitement? Oui, c'est important, là, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais si on peut vraiment diminuer le nombre d'enfants qui ont besoin d'interventions beaucoup plus thérapeutiques, mais ça serait peut-être un meilleur placement d'argent.
Dis-moi, Nathalie, là, parce que à la lumière de tes explications de ton projet doctoral, on semble comprendre que c'est un projet de nature plutôt qualitative. Oui. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu aux auditeurs là, la nature du projet qualitatif, en fait, parce que on se le cachera pas, il y a beaucoup de cliniciens ou d'étudiants-chercheurs en ce moment qui vont se tourner plus vers le quantitatif, le qualitatif étant la partie créative de la recherche, là, parfois comment elle est perçue. Donc, je pense que si tu nous donnais un petit exposé là-dessus, là, juste pour mettre en lumière là, en quoi ton projet s'inscrit là, dans ce paradigme-là, en fait.
Merci. Oui, alors pourquoi j'ai choisi une approche plus qualitative? En fait, c'est une des forces de cette approche-là, c'est vraiment d'aller chercher la richesse dans les propos des gens qui ont besoin des services. Et là, on parle des parents. D'aller chercher vraiment leur vécu à eux. Comment qu'ils vivent ça d'avoir un nouveau bébé, d'avoir à aller implanter des stratégies de prévention? Qu'est-ce qui pourrait les aider, je veux dire? De façon qualitative, je voulais aller chercher leur richesse dans leurs réponses. Donc, ça, c'était une des raisons. Donc, ce qu'on va faire, comme je disais, mais il y a un petit côté quand même quantitatif à mon projet parce que la première collecte de données, c'est un questionnaire qui va être disponible, en fait, par une annonce Facebook à tous les parents canadiens. En fait, on va commencer à l'échelle canadienne, les nouveaux parents de bébés. Puis, il y a quelques questions. Je pense qu'il y en a à peu près 55 questions. Ça va prendre à peu près 15 minutes à répondre. Puis, donc, on veut savoir leur connaissance sur les déformations crâniennes, leur connaissance sur les stratégies, mais aussi comment ils appliquent ça, leurs difficultés, leur identité sociale par rapport à ça, leurs influences sociales. Est-ce qu'il y a des groupes sociaux auxquels ils se sont joints pour les aider, là, justement, à rendre ça un peu plus convivial? Est-ce qu'ils ont de la famille autour d'eux qui les aide ou des est-ce qu'ils savent à qui s'adresser s'ils ont des difficultés? Donc, toutes ces questions-là, donc on s'est basé vraiment sur un cadre conceptuel qui aide beaucoup à aller chercher toutes les dimensions que ce soit. Là, j'ai parlé de connaissances, habileté, j'ai parlé d'influence et d'identité sociale, j'ai parlé de contexte et ressources, mais il y a aussi toutes les émotions qui sont autour de ça. Il y a des parents. Est-ce qu'il y a des parents qui ont peur de mettre leur enfant sur le ventre? Et ça, on a vu ça dans la littérature. Parce que peut-être que les parents ne savent pas trop là, qu'est-ce que ça peut faire. Il y a tout le renforcement qui se fait autour d'eux pour les, les soutenir dans ça. Je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de dimensions qui peuvent être trouvées. Donc, je reviens, pourquoi utilisation, ça c'est le questionnaire, c'est le niveau quantitatif un peu plus, mais après ça, on va prendre un échantillon de 15 à 25 de ces parents-là qui auront des réponses très, très diverses. Puis, on va aller faire des entrevues avec ces parents-là pour aller vraiment chercher un peu plus, aller plus en profondeur dans leur vécu. Puis, en ce moment-là, on va pouvoir prendre tout ça ensemble et aller encore, c'est encore une technique qualitative, on appelle ça des groupes nominaux. Les groupes nominaux, c'est qu'on rassemble des professionnels un peu experts sur la question, que ce soit, on va avoir des médecins pédiatres, des médecins obstétriciens, des infirmières en obstétrique, des physiothérapeutes qui travaillent aussi dans ces domaines-là. Puis, on va les rassembler, puis on va leur proposer, on va leur montrer un peu les résultats qu'on a trouvés avec les parents. Puis, on va leur demander, là, vraiment, s'ils ont des stratégies à proposer et on va faire des groupes de discussion avec ça. Puis, ils vont pouvoir les mettre en ordre d'importance. Donc, cette méthode qualitative-là, je pense, en tout cas, on va voir qu'est-ce que ça donne, mais je pense que ça va donner vraiment une piste de solution concrète, rapide quand même, là, comme solution. Je veux dire, il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5. Puis à ce moment-là, il va y avoir, ah oui, j'ai pas dit ça, mais dans nos groupes nominés, il va y avoir aussi des gestionnaires qui vont pouvoir prendre ces solutions-là puis vraiment dire, OK, maintenant on a ça, on va pouvoir peut-être l'appliquer de façon concrète.
C'est super intéressant. Je trouve ça bien parce que justement, l'aspect qualitatif, moi, je suis tellement pas dans ce paradigme-là, mais je trouve ça toujours très, très intéressant parce que la vision, on veut vraiment orienter les nouvelles thérapies, les stratégies de prévention ou d'autres méthodes thérapeutiques. On veut toujours dire, on fait des soins santé sur le patient et tout. Et puis finalement, on fait de la recherche qui est très, très quantitative pour essayer de trouver de l'efficacité, pour essayer de trouver la meilleure thérapie. Mais en fait, on ne demande jamais aux patients, que ce soit en douleur chronique, que ce soit avec les familles, vous, c'est quoi votre perception de la situation? C'est quoi qui vous aiderait, en fait, à aller mieux ou à prévenir certaines déformations crâniennes, par exemple? Donc, on veut faire des soins centrés sur le patient, mais on fait beaucoup de recherches quantitatives, là, donc qui est très mathématique, donc qui est très dans la statistique, mais en fait, on ne demande jamais à des gens, puis chaque personne reste quand même unique, sa vision du monde, puis l'interaction qu'elle a avec son environnement peut être très, très, très différent d'une personne à l'autre. Donc, on mise beaucoup sur l'aspect statistique dans tout ce qui est science de la santé ou science clinique. Mais en fait, je trouve que l'aspect très qualitatif vient rechercher la richesse, l'unicité hein, de chaque contexte. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis je pense que c'est quelque chose qui devrait être mis de l'avant encore plus.
J'ai la chance d'avoir des co-directrices de recherche qui sont très spécialistes sur la question. Il y a Dr. Isabelle Gaboury aussi qui est beaucoup dans l'implantation des programmes. Puis il y a aussi Chantal Camden là, qui a son laboratoire Grandir qui font beaucoup, beaucoup de recherches qualitatives centrées sur le patient. Et ils mettent en place des programmes super intéressants. Là. Vous pouvez aller voir leur site web, c'est incroyable ce qu'ils font pour les enfants justement de toutes sortes. Alors, oui, je crois qu'il y a quand même des spécialistes là, un peu à travers toutes les universités qui peuvent aider les gens qui sont intéressés à faire de la recherche comme ça.
Dis-moi, Nathalie, ce qui m'amène à penser, parce que bon, ton projet doctoral est beaucoup dans la prévention, puisque nos auditeurs qui nous écoutent, ils peuvent être de plusieurs professions, mais aussi surtout des ostéos pour l'instant, du moins. Dis-moi, là, en quoi ton projet de recherche pourrait leur être utile?
Alors, en tant qu'ostéopathe, moi, je vois l'ostéopathie comme qui va devenir, j'espère, une profession à part entière. Et en tant que professionnelle de la santé, je crois que c'est super important de comprendre l'aspect prévention dans tous les domaines, pour tous les patients que l'on voit. Leur propre mise en action, leur propre prise en charge, à mon avis, est un élément clé dans leur healing, dans leur retour ou leur continuation dans la santé. Et donc, la prévention n'appartient pas juste à une profession, mais à toutes les professions. Et je crois que c'est important aussi d'avoir un langage commun entre tous les professionnels. Le projet prévention, je crois, va s'appliquer à toutes les professionnels qui voient des familles en première ligne. Et les ostéopathes voient beaucoup de familles en première ligne. Donc, je crois que c'est super important, même s'il n'y a pas de traitement dans mon projet. En fait, la prévention doit être présente à tout moment avec tous nos patients.
Je pense que ça stimule aussi beaucoup l'autogestion. Puis ça reste que l'autogestion, moi, je suis plus comme en douleur chronique, mais je veux dire, on peut pas avoir une clientèle qui est accrochée à de la physiothérapie, de l'ergothérapie, de l'ostéopathie, de l'acupuncture ou peu importe, là, name it. On veut que le patient puisse trouver des stratégies pour que si on n'est pas disponible, s'il passe 2-3 jours parce qu'il n'est pas capable d'avoir un rendez-vous, ben il soit capable d'avoir ses stratégies de prévention de crise de douleur. Mais on peut l'appliquer ici. La famille n'a pas toujours le temps de cesser la garderie, cesser le travail pour courir vers le professionnel et pour avoir un rendez-vous. Donc, il doit être en mesure de pouvoir avoir ces connaissances-là, ces stratégies d'application qui vont lui permettre peut-être, dans certaines circonstances, de s'éviter, on va dire, le trouble, là, d'aller vers un professionnel qui n'est peut-être pas toujours accessible dès qu'on en a besoin, aux heures qu'on en a besoin et au prix qu'on en a besoin, là. Donc, je pense que tout ça reste quand même, et comme on dit, la prévention, elle appartient à personne. Elle doit être diffusée à travers ces différents professionnels pour la population, pour cette accessibilité.
Exactement. Puis effectivement, que les coûts associés au traitement, que ce soit en ostéo, mais à tous les autres types de traitements, on s'entend que c'est peut-être pas tous les gens qui peuvent s'offrir ça, malheureusement. Moi, mon grand rêve aurait été d'avoir de l'ostéopathie offerte gratuitement aux gens, mais on n'est pas encore rendu là.
Dis-moi, Nathalie, là, on comprend que tu vas débuter bientôt. Est-ce que tu vas débuter bientôt ta collecte de données?
En fait, j'espère que oui. Peut-être dans quelques mois, j'ai encore mon examen général à compléter. Donc, j'ai présenté mon protocole. Il me reste deux parties, en tout cas, à faire mon examen, mais ensuite aussi à proposer à l'éthique. Et puis, après l'approbation de tout ça, eh bien oui. Donc, j'espère que ça va commencer peut-être même avant l'été. Donc, peut-être au printemps, j'espère, à suivre.
Au moment où tu auras besoin de la diffusion, tu nous le diras. Je pense que le no-brainer, ça va nous faire plaisir d'aider là, à cette portion-là, du moins, là, qui apporte son lot de surprises.
Au rayonnement, en fait.
Oui. Oui, effectivement. Et on ne se le cachera pas. La collecte de données, c'est un temps dans la recherche qui amène son lot de facilitateurs, mais aussi son lot de frustrations au travers du processus, je pense. Enfin, mais si tu te projettes dans le temps, à la fin de ton doctorat, qu'est-ce que tu espères amener avec... la finalité que tu espérais là, dans le meilleur des mondes?
C'est sûr qu'il y a toujours la réponse classique. Je veux apporter à l'évolution des connaissances, n'est-ce pas? Oui, en tant qu'ostéopathe, mais aussi en tant que professionnel de la santé. Je veux contribuer à un monde meilleur pour les nouvelles familles. C'est déjà tout un défi d'avoir un petit bébé. Pourquoi ne pas faciliter la vie de ces parents-là? Ça, c'est vraiment un de mes grands souhaits. J'avoue que peut-être, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est pas mal ça qui m'amène à faire ce que je fais. Moi, ça a toujours été une passion pour moi d'essayer d'aider le plus possible les gens. Puis, lorsque je le fais en clinique, bien, c'est du un à un, aussi d'une famille par une famille. Mais maintenant, en faisant un projet de recherche, j'espère en tout cas que ce projet-là va pouvoir aider plusieurs familles à la fois. Donc, c'est ça. C'est ce que je voudrais faire.
Et la question qu'on pose à tous nos invités, considérant que tu fais partie de la communauté ostéopathique et que tu connais en plus la communauté ostéopathique autant canadienne que québécoise, qu'est-ce que tu espérais pour la communauté ostéopathique là, dans l'avenir, là, considérant et connaissant aussi où on est rendu? Et aussi en relation, tu nous as bien exposé tes espérances que tu espères avoir là, avec le projet doctoral que tu fais présentement. Mais on pourrait faire un parallèle ou des liens avec qu'est-ce que tu espères pour la communauté ostéopathique là, au travers de ça?
Eh bien, moi, je crois sincèrement que l'ostéopathie est une profession à part entière. Et j'espère qu'elle va être un jour reconnue au Canada comme elle est ailleurs dans le monde. Et à ce moment-là, les gens en ostéopathie, c'est des gens super motivés. Motivés à aider leurs patients, motivés à apprendre beaucoup, motivés à faire avancer les connaissances. Donc, j'espère que ce dynamisme-là va pouvoir se continuer, apporter à l'évolution des connaissances, pas seulement l'ostéopathie, mais à toute la communauté de chercheurs en sciences de la santé et faire partie dans ces groupes de collaborateurs-là à faire avancer la science. Parce que si on regarde les laboratoires de recherche comme celui où je suis à Sherbrooke, je veux dire, il n'y a pas juste des physiothérapeutes, là. Non, il y a des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des psychologues, je veux dire. Puis là, moi qui est aussi ostéopathe, je veux dire, ça apporte beaucoup de richesse aux connaissances, mais aussi aux façons de faire et aux façons d'approcher la communauté que l'on veut aider. Puis même maintenant, en recherche, là, il y a des patients partenaires. C'est-à-dire que les patients, les parents, dans mon cas à moi, vont faire partie de mon comité consultatif. Donc, ils vont m'aider à faire à prendre des décisions sur, par exemple, mon questionnaire, je vais le soumettre à mon comité consultatif où il va y avoir des parents partenaires, des médecins, des infirmières, etc. Puis, ils vont me donner leur avis sur le questionnaire puis probablement, ils vont me donner, mettons, des suggestions pour corriger et améliorer ce questionnaire-là. C'est pareil pour mon guide d'entrevue, c'est pareil pour quand je vais faire l'analyse des données. Quand ça va être fait, je vais leur présenter, ils vont me donner leur feedback par rapport à ça. Donc, on pense aux professionnels de la santé, aux ostéopathes, mais tous les autres professionnels de la santé et la population qui est au sujet de l'étude. Donc, je veux dire, on peut voir grand, là, je crois. Donc, pour la communauté ostéopathique, bien, c'est de continuer à être aussi dynamique, à continuer à vouloir vraiment se reconnaître en tant que profession et de se faire reconnaître par les autres aussi. Et de continuer le bon travail là, qui se fait parce que moi, je pense que d'ailleurs, Chantal Morin a fait une étude là-dessus. Il y a beaucoup, dans la population québécoise, il y a beaucoup de personnes qui vont voir des ostéopathes. Pour peu importe la raison, il y a beaucoup de raisons, mais je veux dire, il y a un besoin. Donc, ce besoin-là, ben oui, c'est de continuer.
Effectivement, Chantal. Elle a bien exprimé ça là, dans ses études, que les actes ostéopathiques, en fait, là, touchent, on parle souvent du musculo-squelettique, mais ça va bien au-delà de ça. Là.
Oui. Donc, je souhaite à la communauté ostéopathique de continuer à progresser et à continuer à faire partie d'équipes de collaborateurs et de continuer à être dynamique.
Merci Nathalie de t'être prêtée au jeu, à notre balado, le No Brainer. Et aussi, on souhaite te réinviter là à la fin de ton processus doctoral pour que tu puisses nous expliquer finalement les résultats là, de cette magnifique recherche qui a vraiment un énorme potentiel là, sur plein de communautés puis plein de populations en fait.
Merci beaucoup.
Le mot de la fin, donc comme à chaque épisode, on vous invite à bien sûr nous suivre sur la page Facebook, sur notre compte Instagram, écouter bien sûr le balado, puis nous envoyer vos commentaires ou questions si vous en avez. Écrivez-nous en grand nombre, écoutez-nous en grand nombre, suivez-nous sur les réseaux sociaux, puis on vous dit à la prochaine.